7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide. Pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins à l'heure d'été avec notre série estivale Vivre en ville. Après Moscou, la ville bling bling, aujourd'hui vivre dans une ville sous tension, Bangkok en Thaïlande. Bonjour Cyril Payen.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France 24, vous vivez à Bangkok depuis 18 ans maintenant.
Eh oui, 18 ans. 18 ans à traverser la vie de cette ville, ouais, c'est vrai. Ça fait beaucoup de temps déjà. J'ai vu beaucoup de turbulences, beaucoup de choses se passer. Et je crois que ça continue chaque heure. Je viens d'arriver là, il y a quelques heures. Je suis encore un peu en décalage horaire. C'est une ville assez envoûtante. Je suis très content d'en parler.
Vous avez publié entre autres Bangkok la nuit aux éditions Philippe Piquet. Mais vous vivez aussi de jour. Vous travaillez dans cette ville sous tension. C'est vous qui avez choisi le titre de l'émission.
Oui, parce que je pense que ça résume assez bien cette ville qui est difficile à résumer parce qu'elle est pleine de contradictions. Il y a beaucoup de choses que les gens croient parce que c'est une ville très touristique. Il y a des millions de gens qui y vont beaucoup. Beaucoup de gens connaissent cette ville. Mais ils croient la connaître. Et c'est une ville qui a encore une part impressionnante de mystère. J'en suis certain puisque je le découvre même chaque fois. Et en même temps, plein de contradictions sociales, politiques. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça, tout ce mystère, c'est aussi, je crois, résolument, une ville qui reste le cœur de l'Asie. C'est une ville très moderne, très mondialisée, mais où on trouve quand même, quand, par exemple comme moi, avons un tropisme important pour l'Asie, j'ai choisi d'y vivre en Asie, je m'y retrouve totalement à Bangkok puisqu'elle revêt vraiment cette véritable Asie.
Mmh. Au visage multiple, avec vous Cyril Payen, nous ne ferons pas de tourisme, hein. Nous allons d'ailleurs plutôt vivre par choc contre par choc sur les autoroutes avec vous et ces toiles de métro aérien. Bangkok, 19 millions d'habitants, c'est ça, avec ses banlieues.
Dans la grande périphérie, oui, c'est très grand.
Soleil voilé à Bangkok avec un thermomètre également sous tension, 33 degrés aujourd'hui. Dans une ville sous tension, Bangkok en Thaïlande, avec Cyril Payen, reporter, correspondant pour France 24. Vous signez le programme musical que vous assumez, donc Cyril.
Ah, totalement, et Ad Carabao, c'est très bien de l'avoir choisi en premier. C'est Ad Carabao, c'est le nom donc, du chanteur qu'on a entendu, et le groupe c'est Carabao, ça veut dire buffle. Et c'est un groupe qui a vraiment d'abord accompagné ma vie depuis longtemps, mais c'est...
Oui, parce que c'est pas récent.
Ah, pas du tout, non. Puis maintenant, c'est devenu un homme d'affaires qui il vend de la boisson énergétisante, il est impliqué dans le football, enfin il est très thaïlandais, il s'est diversifié, mais au début c'était quelqu'un de très sérieux, un vrai artiste, un militant aussi, qui a été formé aux Philippines, Ad Carabao, et qui a créé ce groupe un peu atypique, militant beaucoup pour des thèmes sociaux, écologiques, de fierté nationale aussi, c'est très important, ce sont des thèmes très importants qui fédèrent beaucoup en Thaïlande.
Alors là, ce qu'on a entendu, c'est un des tubes, Made in Thailand, Not in Japan.
Oui, bah oui, c'est-à-dire que la fierté thaïlandaise de revendiquer ce que nous sommes, nous surtout les paysans, c'est-à-dire les 70% de ce pays, hors de Bangkok, hein, mais dont beaucoup habitent Bangkok parce qu'il y a du travail, hein, ce sont les buffles, les fameux buffles, les carabao de Bangkok, et il les regroupe, il a toujours été le fédérateur de ces gens, et c'est pour ça, c'est ce qui explique l'immense popularité à travers les générations de carabao, ce groupe de rock militant thaïlandais.
Ouais, alors il a misé aussi sur une fierté nationaliste, hein, Made in Thailand, Not in Japan, ça sous-entend aussi parce parce qu'il y a eu une époque où les Japonais étaient devancés très largement l'industrie, la création technologique, etc., etc.
Absolument, de revendiquer les sources, les racines thaïlandaises, le retour aux sources, les champs, les rizières, pas forcément les voitures japonaises ou les fours à micro-ondes, pas les grandes entreprises qui s'implantent, mais la fierté simplement de Thaïlandais. Et le Thaïlandais, de base, est quelqu'un qui a besoin de pas grand-chose pour vivre. Et c'est vraiment un des thèmes principaux hein, de Carabao. Le retour aux sources, tout ça, sont des thèmes assez importants en Thaïlande.
Bangkok, une ville qui vit avec le tourisme, ça tout le monde le sait. Mais les étrangers de passage ont du mal à saisir les réalités de la ville. Pourquoi, à votre avis?
Je pense qu'il y a plusieurs catégories, mais en général, il n'y a pas une très très bonne image de cette mégalopole pleine de béton, de bruit, de fureur. C'est quelque chose d'assez repoussant. D'ailleurs, moi-même, pendant de nombreux mois, je refusais d'habiter à Bangkok. C'est quelque chose qui me faisait peur. C'était pour moi l'épouvante hein, de la mégalopole. Après, il y a ceux qui aiment, mais pour les mauvaises raisons. C'est parce qu'ils aiment la nuit, ils aiment les facilités, les bordels, enfin tout ce qui est aussi l'image d'Épinal, hein, ce cliché qui colle à la peau de Bangkok.
Il faut le rappeler historiquement, en fait, c'est la suite de la guerre du Vietnam, ouais. La présence américaine militaire, etc.
Bien sûr, c'est le pacte avec le diable. Enfin, c'est ce que pensent beaucoup de Thaïlandais. C'est le début de tous les démons hein, du boom thaïlandais. Mais c'est la pactisation, effectivement, avec les Américains qui ont fait de la Thaïlande une base arrière de récréation aussi. Les bordels, bien sûr, pour les djihads, qui ont pactisé avec les Américains sur fond de guerre du Vietnam.
Et longtemps, une des villes les plus occidentalisées d'Asie.
Paradoxalement, une ville
avant
asiatique
que la Chine
est extrêmement, absolument, extrêmement occidentalisée, absolument.
Le jour est déjà levé depuis un moment et la journée commence invariablement par ceci.
Mais ça, je pense que ceux qui vont écouter ce morceau et qui vivent ou qui ont vécu à Bangkok savent exactement de quoi il s'agit. C'est d'ailleurs en bas de chez moi, dans le quartier du centre de Bangkok de Sathorn. C'est immuablement l'hymne national, joué tous les matins à 8h et tous les soirs à 18h, de manière immuable, c'est sacré. Et d'ailleurs, les gens, là, pendant que je joue ce morceau, les gens doivent s'arrêter au garde à vous, ne n'ont pas le droit de marcher.
Réellement, dans
absolument,
la rue.
C'est sacré, c'est quelque chose d'immuable. On entend ce bip sonore, on entend cet hymne national qui se joue tous les matins, comme ça se fait là. Et là, vous imaginez les gens qui sont au garde à vous, qui ne bougent
donc
pas, les enfants s'arrête, tout s'arrête. Les voitures, dans une grande ville comme ça, c'est difficile, mais dans des endroits où c'est un peu plus calme, les petites rues, les voitures s'arrêtent, c'est obligatoire. La police vous dira de vous arrêter, étrangers, tout le monde compris, on respecte la levée du drapeau.
Depuis le dernier coup d'état militaire de mai 2014, où est-ce qu'on en est des restrictions des libertés, justement? Parce que se lever au drapeau, il a toujours existé.
Oui, mais là, on adapte vraiment c'est dans le paroxysme, en fait, dans une chape de plomb. La Thaïlande a toujours flirté avec les coups d'état militaires. Il y en a eu 17 depuis 1932. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de premiers ministres qui ont été déposés. Beaucoup de fois où les militaires ont été tentés de reprendre le pouvoir. Mais c'est vrai que depuis 2006, depuis plus de 10 ans maintenant, on vit des turbulences qui n'ont jamais atteint un tel degré en Thaïlande. On sait qu'il y a eu, vous vous rappelez, des morts en 2011. Il y a eu 3 coups d'État. On est passé dans une phase un peu critique, c'est-à-dire que jamais on a eu dans ce pays, dans l'histoire contemporaine de la Thaïlande, autant de pouvoir concentré dans les mains d'un seul homme, qui est le général Prayut Chan-o-cha, qui est l'ancien chef de l'armée, qui a décidé de prendre les rênes du pays. Et c'est vrai que sur le plan des libertés individuelles, c'est totalement fini. Vous avez une explosion des arrestations arbitraires pour le crime de lèse-majesté, qui est en fait une manière de mettre devant des tribunaux militaires toute personne qui va ouvrir un peu sa bouche pour contester.
Mais c'est un texte qui a toujours existé, ça, le crime de lèse-majesté.
Absolument, mais on l'applique totalement à la règle, et tout cela est en pleine explosion. 500 000 sites internet qui sont bloqués, une censure, presque une auto-censure maintenant de la société. Depuis un an, les Thaïlandais, qui sont en général assez volubiles, qui parlent même des sujets un peu tabous, un peu difficiles, qui aiment bien s'exprimer, ne parlent plus. On vit vraiment dans la peur. C'est une réalité concrète et quotidienne à laquelle moi-même je suis confronté, puisqu'il y a des thèmes qu'on ne peut pas aborder, par exemple le roi, c'est difficile d'en parler sur cette antenne, parce que je peux être aussi arrêté au motif que j'aurais injurié le roi. Donc on est vraiment, probablement, et les Thaïlandais le savent, dans une période de transition très dangereuse, et il y a un resserrement de vis incroyable, comme jamais on a vu ici.
Mais ça, est-ce que c'est palpable dans la vie de tous les jours pour le Thaïlandais de la classe moyenne, de la classe populaire? populaire, dans les interstices de sa propre vie.
Oui, parce qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Depuis quelques années, c'était comme tout le monde, tous les touristes, tous les gens peuvent avoir une discussion avec un chauffeur de taxi sur les problèmes politiques, sur les manifestations. Ceux qui ont vécu ou voyagé à Bangkok récemment ont vu des manifs, ont vu des gens qui manifestaient dans les rues. Bon, on pouvait en parler. Maintenant, c'est fini, il n'y a plus de manifs, puisque toute réunion de plus de 5 personnes est interdite. Les flics interviennent pour veiller au grain. L'armée est partout, surveille les téléphones. Il n'y a plus aucune forme de contestation, mais il n'y a même plus aucune forme de débat. Parce que ce n'est plus possible. Parce qu'on sait qu'on a une chape de plomb qui s'est totalement abattue sur ce pays. Et les Thaïlandais savent qu'ils sont prisonniers, qu'ils soient pour ou contre. Ils savent que c'est assez compliqué actuellement et que l'armée veille au grain et qu'on n'a jamais été à ce point-là. Donc c'est aussi un des paradoxes de ce pays.
Les chauffeurs de taxi ont longtemps été labellisés chemise rouge. C'est toujours le cas aujourd'hui à Bangkok.
Bien sûr. Et c'est, eux, ils ne parlent plus. Ils sont pointés du doigt, ils sont marginalisés, ostracisés. Oui, bien sûr.
Pourquoi sont-ils dans ces positions politiques-là?
Eh bien, parce que tous sont, on en revient à Carabao, tous sont en général des gens qui sont issus de Lisan, c'est-à-dire le cœur, le berceau de la Thaïlande, qui sont les buffles de la Thaïlande, qui sont venus travailler à la capitale. Bangkok est essentiellement une ville chinoise. Qui est née des vagues de migration chinoise qui a fait le boom de ce pays. Mais donc, ils ont toujours un attachement à leur berceau natal. Et ce berceau natal, c'est le populisme de leur héros, Thaksin Shinawatra, qui est le Premier ministre qui a été déposé en 2006. Et ils sont totalement chemise rouge, absolument. Mais ce sont les perdants actuellement. Donc, ils ne parlent plus. Tout le monde sait qu'ils sont chemise rouge. Mais il n'y a plus aucune forme de débat dans ce pays actuellement.
Cyril Payen, vous signez le programme musical de l'émission. Bangkok, une ville sous tension. Dans toute sa diversité, on ira du rap jusqu'au Sinatra Thaï d'ailleurs, mais ça commence par du rap.
Ooh. yang rata mai klai trakip ni wot wai pen thao than ko ja kho rak ja kho rak duai win
Voilà, je le disais, on est passé du Sitting Joy Boy, un rappeur local, au Sinatra local. Racontez-nous.
Ah bah lui, c'est une météorite thaïlandaise. Il a signé d'ailleurs avec les Américains.
Le rappeur.
Le rappeur, pardon.
Joy Boy.
Joy Boy est type des quartiers qui fait un peu la mode rap, mais ça peut surprendre en Thaïlande, on est plus folk comme Carabao, quoi. Et lui, en même temps, profite de cette notoriété pour aborder les thèmes qui font plus débat, c'est-à-dire les thèmes sociaux, politiques, il n'a pas peur. Et il défouraille. Et il a beaucoup de succès.
On le laisse tranquille ?
Oui, aucun problème. Il a tellement de succès que ça va, mais il représente vraiment cette nouvelle jeunesse urbaine, hein, surtout les jeunes de Bangkok de 18 ans qui ont envie de s'amuser, qui aiment avoir du rap, c'est-à-dire une musique assez mondialisée, très américaine, il faut le dire, mais avec des thèmes à eux, avec un type qui vient de leur monde. C'est une superstar, quelqu'un de très très amusant.
Et puis ensuite on a entendu le Sinatra local.
Et voilà, c'était l'ancêtre de ce garçon, c'est ce côté vieux jeu, vieille mode, qui est également très thaïlandais. C'est-à-dire qu'on voit.
On n'a pas donné son nom.
Soutep.
Soutep.
On va l'appeler Soutep, oui. Mais il est symptomatique de ce côté désuet, très fleurbeux, qui accompagne une génération qui a aujourd'hui à peu près 60 ans, de Thaïlandais qui aiment ces vieilles musiques un peu langoureuses. On ne parle que des thèmes fleurs bleues, d'amour, de thèmes très très légers. Ce n'est pas que ça la Thaïlande, ce n'est pas que ça Bangkok, mais on aime la légèreté. On appelle ça le sabae sabae, c'est-à-dire que tout va bien, peu importe. On est très ancré dans le bouddhisme, donc même si on a des problèmes, eh bien on écoute ce monsieur Soutep, et puis après tout, demain d'un autre jour.
C'est une forme de résignation aussi par rapport à cette chape de plomb qui s'est abattue sur Bangkok et le reste du pays, bien évidemment, depuis le dernier coup d'État. Mais c'est vrai, la Thaïlande en a vu beaucoup d'autres, des coups d'État depuis les années 30.
Je crois que le bouddhisme est quand même très très ancré. C'est certainement un des grands ciments politiques aussi de ce pays. C'est pour ça que ça tient. Ça peut paraître un paradoxe, une contradiction, mais la Thaïlande tel qu'on en parle depuis quelques minutes peut paraître effrayante, mais les gens vivent assez bien finalement, bien qu'ils sachent qu'ils vont dans une direction qui est un peu hasardeuse, un peu flottante, donc ils se posent beaucoup de questions, bien qu'ils n'en parlent pas. Mais la résignation, oui, mais qui n'est pas forcément de la résignation, c'est juste encore une fois le sabae sabae. C'est que à 18 ans il fera nuit, demain il fera jour à 6h, et puis on mangera, on boira du whisky, on dansera, on écoutera de la musique et on s'en contente, peu importe. Peut-être on va mourir, peut-être on aura une dictature, peut-être on aura des jours meilleurs. Chaque personne se contente de la journée qui se lève.
Il y a une métaphore, Cyril Payen, que vous affectionnez pour définir cette tension de la ville en arrière-plan du sourire. Bangkok, une ville qui flotte sur de l'eau croupie.
Bien sûr, le lotus qui est une fleur magnifique, comme chacun sait, et qui ne pousse que dans la fange. Et Bangkok est totalement symptomatique de cette image, de ce symbole. C'est-à-dire que c'est une mégalopole assez monstrueuse, et en même temps où il y a énormément de beauté, il y a une richesse outrageante, scandaleuse, qui coexiste avec l'équivalent dans la misère, et en même temps il y a un équilibre, une stabilité, curieusement, finalement une forme de stabilité sociale, tout ça coexiste. Et c'est vrai que c'est une ville qui est née sur un marigot. C'est une ville d'ailleurs qui physiquement s'enfonce, puisque dans le développement anarchique de cette ville, on a trop creusé anarchiquement la nappe phréatique. Donc Bangkok est vraiment une Venise de l'Orient.
On va en parler,
elle s'enfonce,
bien sûr, après le flash, de cet habitat en danger. Vous nous direz aussi comment s'organisent les logements dans la capitale thaïlandaise, socialement. Vous restez avec nous, Cyril Payen. Bangkok, une ville sous tension, suite de votre récit et de vos tranches de vie dans la métropole thaïlandaise. Juste après le flash, retour dans 3 minutes maintenant. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins à l'heure d'été. chaque jour, une ville du monde racontée par nos invités expatriés. Aujourd'hui, vivre dans une ville sous tension, Bangkok, en Thaïlande. Avec vous, Cyril Payen, correspondant pour France 24. Vous êtes installé dans cette ville depuis 18 ans maintenant. C'est presque Thaï. Une ville que vous avez vue grossir, en tout cas, sous vos yeux, même si c'est une ville qui a été largement dépassée depuis par les villes chinoises, bien sûr. 8e ville du monde, Bangkok, près de 19 millions d'habitants. Une ville sous tension, vous nous le disiez en première partie d'émission, pour des raisons politiques, sociales, urbanistiques aussi. Une ville qui a longtemps été irrespirable, mais aujourd'hui la ville aussi vous assaille, surtout par les oreilles. À Bangkok, Cyril Payen.
Oui, c'est le carrefour de Ratchaphasong qui est très connu, qui est très central dans le cœur d'or, je dirais, de Bangkok. Et on ressent, je pense, cette pollution sonore, quelque chose qui est un mélange d'anarchie, une pollution industrielle, quelque chose d'assez intangible, tellement c'est puissant. Surtout que si vous vous mettez là, comme moi, je m'imagine là, quand j'ai enregistré ce son, vous imaginez.
C'est tout près de chez vous d'ailleurs.
C'est tout près de chez moi, vous voyez au-dessus de vous. Le béton, vous voyez un entrelac totalement anarchique mais finalement si bien organisé de métro et tout cela avec cette ambiance futuristique presque de cette pollution sonore encore une fois et c'est ça aussi Bangkok. Et on peut apprendre à l'aimer, ce que j'ai fait moi. On peut ne pas y faire attention parce qu'on y est né, mais c'est aussi très rebutant. Parce que je peux vous dire que quand vous êtes là à ce moment-là, c'était un dimanche matin dans et c'est un dimanche matin, oui, mais c'est vraiment une vision du pandémonium, la capitale des enfers. C'est-à-dire que ça conjugue la pollution industrielle, le béton partout, les gens qui vous assaillent, qui sont partout, par cent, par milliers, les voitures qui klaxonnent, imaginez tout cela, les métro qui passe au-dessus, les publicités sur des écrans plasma géants, c'est une forme de vision de l'enfer, mais c'est ça aussi le cœur de Bangkok aujourd'hui.
Piéton à Bangkok, c'est comment ?
C'est très dangereux. Ça n'existe pas, on n'a pas la priorité.
Il y a des passerelles pour les piétons.
Alors voilà,
aussi.
Donc là où on est notamment, on a inventé ce qui va sauver certainement cette ville, en tout cas les piétons, parce que c'est très dangereux encore une fois de marcher dans cette ville qui n'est pas faite pour les piétons. Il n'y a pas en général de trottoir, et quand il y en a, ils sont à 50 cm de hauteur, donc c'est un peu fatigant. Il fait très chaud aussi. Par exemple, dans ma rue, il n'y a pas de trottoir. Le cadastre n'a pas prévu de trottoir. C'est-à-dire que vous marchez à vos risques et périls. C'est-à-dire que les voitures passent. Et quand vous voyez à Paris des voitures qui, bien disciplinées, parce que c'est la loi qu'elles appliquent, s'arrêtent pour laisser passer les piétons, moi, ça me perturbe. Parce que quand on voit une voiture qu'on traverse une rue à Bangkok, on détale. Parce qu'on n'est pas du tout prioritaire.
Vous avez quelques mauvaises habitudes à Paris, là, vous venez d'arriver.
Ici, c'est extraordinaire. C'est un paradis. On ne comprend pas. Quelque chose de spécial se passe.
Est-ce que la ville se lie simplement, je veux dire, socialement dans son organisation de l'habitat? Est-ce que les quartiers sont bien définis selon les classes sociales?
Pas du tout. Pas du tout, et c'est ce qui fait le charme de cette ville, cette alchimie un peu curieuse, qui moi en tout cas m'a beaucoup séduit. C'est-à-dire qu'il y a un ordre social assez établi, il y a un statu quo, enfin les gens savent où ils sont. En même temps, vous avez, comme dans mon quartier, qui est un quartier central de Bangkok, qui est l'ancien quartier français, près des ambassades, qui est un quartier assez agréable, mais je coexiste avec le plus grand bidonville de Klong Toei, qui est un énorme bidonville à ciel ouvert.
Qui n'a jamais été expulsé, donc.
Pas du tout, qui a de nombreuses années, je pense, devant soi. Mais l'extrême pauvreté cohabite pacifiquement, sans aucun problème, avec un déballage de richesses absolue. Je peux même vous dire que certaines personnes de ce quartier de bidonville de Klong Toei font les poubelles de leurs voisins, mais sans aucune, apparemment, animosité, comme on pourrait l'entendre dans nos sociétés, où ça deviendrait dangereux. Cette insécurité qui pourrait naître de cette cohabitation et de cette proximité, finalement, n'est pas aussi palpable que ça. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est la résignation? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le ciment du bouddhisme? Je ne sais pas. On pense tous à sa vie prochaine, donc ce n'est pas si grave. Mais ce qui fait vraiment le charme de cette ville, où on peut vraiment cohabiter avec n'importe qui.
Mais néanmoins, les inondations de très, très fortes inondations, je pense à celle de 2012.
Ouais.
Ont creusé le sillon quand même socialement.
Absolument, parce qu'on a compris, les gens ont compris grâce aux médias sociaux maintenant, aux réseaux sociaux, qu'on avait dévié ces inondations qui arrivaient sur la capitale, dont on a beaucoup parlé, pour éviter les quartiers chics, notamment la Banque Centrale, les quartiers où j'habite moi d'ailleurs. On a fait dériver les inondations vers des quartiers qu'on a sacrifiés. Et le problème, c'est que ça a toujours été comme ça dans ce pays qui est assez inégalitaire socialement, politiquement. C'est le plus riche qui a toujours raison. Et ça commence un peu à se fragiliser. Et c'est vrai que ceux qui sont toujours sacrifiés, eh bien, commencent à en avoir un peu ras-le-bol. Et c'est vrai que ces inondations, vous avez raison d'en parler, parce qu'en 2012, ça a un peu changé la donne. On commençait un peu, il y avait des manifestations, des gens qui ne comprenaient pas, qui n'acceptaient pas surtout.
Mais ça veut dire très concrètement, géographiquement parlant, les gens qui habitent sur le fleuve sont les pieds dans l'eau, pendant que la classe moyenne essaye de
Elle peut aussi habiter, partir. Parce qu'il y a aussi qu'il y a des quartiers chics sur l'eau, mais elles habitent très haut.
C'est ça.
Et les gens qui habitent sur le fleuve sont la moitié de l'année les pieds dans l'eau, absolument, invivables.
Donc sensibilisation, problème de, aux questions d'environnement depuis ce drame des inondations de 2012.
Oui, c'est un vœu pieux du gouverneur de Bangkok. On le voit sur beaucoup d'affiches. Ça a au moins le mérite d'exister, parce qu'avant ça n'existait pas. Mais c'est un vœu pieux. C'est-à-dire que dans la réalité, on en est très, très, très loin.
Parce que le quotidien...
Il n'y a pas de politique environnementale.
Il faut boucler aussi sa fin de mois.
Absolument.
Enfin,
absolument.
Si on n'est pas endetté à partir de la moitié du mois, c'est
et
ça.
Et même depuis le début, puisque un des mots de thaïlandais, c'est le crédit. Et on sait que maintenant, il y a 30% des ménages à Bangkok qui commencent le premier du mois sans un sou.
Parce que ces ménages ont emprunté pour acheter quoi ?
Absolument. Bah, tout, téléphone portable, tous les affres de la société de consommation. Les Thaïlandais, notamment les Thaïlandais urbains, sont des papillons, sont des gens qui aiment encore une fois s'amuser. Il y a une énorme sollicitation de cette société de consommation et ça, ils ont beaucoup, beaucoup de mal
parce
à résister.
Parce qu'on est dans une ville du business aussi, il
absolument,
faut bien dire,
absolument.
Du commerce.
La tentation était partout à Bangkok.
Donc le principal poste de dépense pour les ménages, c'est quoi ? C'est le logement, c'est l'électricité, c'est la nourriture, c'est le
je ne voudrais pas dire un téléphone portable, parce que ça donnerait une mauvaise image des foyers thaïlandais, mais c'est très important. Donc évidemment, il y a le foyer, évidemment la maison, mais d'ailleurs les loyers augmentent, mais on dépensera beaucoup d'argent pour l'image, pour une voiture ou pour un téléphone portable. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société. Hein. Et c'est pour ça qu'on est très endetté, mais c'est une société assez superficielle en ce sens, bien sûr.
Vous parliez de loyer, c'est vrai que c'est pour un étranger, c'est difficile de devenir propriétaire, hein, je crois.
Pour l'étranger, c'est difficile.
Un appartement,
c'est
pour quelle raison exactement ?
Protectionnisme. Il y a des arrangements possibles, mais où l'étranger est en général défavorisé, parce qu'il y a encore un ancrage important de fierté nationale du fait qu'on ne solde pas ce pays.
Dans une ville sous tension, Bangkok en Thaïlande, avec vous Cyril Payen. Mon Dieu, ça date pas d'hier cette reprise de Serge Gainsbourg. Je t'aime, moi non plus, mais où peut-on encore entendre cela à Bangkok ?
Oh, bah, dans une certaine forme d'une génération de gens à Bangkok qui écoutent ce genre de choses. Ce sont les fondateurs de ce qui est devenu Bangkok, c'est-à-dire que cette reprise de Serge Gainsbourg est assez symptomatique de cet ancrage quand même dans la mondialisation avant tous les autres pays d'Asie du Sud-Est. de Bangkok, que ce soit bien ou mal, on verra plus tard, mais ce pacte avec l'Occident, c'est totalement représenté par ce tube français qui a fait le tour de la planète et qui devait être un morceau sur lequel on dansait dans les boîtes de nuit de Bangkok dans les années 70. Et ça révèle tellement les préambules de ce qu'est devenue cette ville, bien sûr.
Qu'est-ce que vous appelez la greffe mal prise parfois, mais on sent beaucoup de tendresse dans la façon dont vous en parlez.
Oh, bien sûr, parce que c'est quand même assez, c'est assez touchant quand même, c'est assez amusant d'avoir autant de culture, d'identité, d'intégrité, d'être fier de ça finalement. Et en même temps, c'est tellement évident que c'est très très occidentalisé aussi.
Vous nous emmenez au marché, Cyril Payen.
Oui, le marché
ça
de Swanpoo.
Ça vous arrive ?
Oui, ça m'arrive, bien sûr, absolument.
Alors, où sommes-nous exactement, Cyril ?
C'est le marché de Swanpoo, dans le quartier de Saturn, qui est mon quartier. C'est d'ailleurs mon marché, où je vais acheter des fleurs, des orchidées, on peut tout acheter 24h sur 24. Et les gens, ils dorment, ils vivent, ils braillent, comme on l'a entendu. Ils vendent des choses abominables qui sentent horriblement mauvaises. En même temps, c'est le point central, le point d'ancrage, 24h sur 24, pour beaucoup de Thaïlandais de ce quartier, qui est un grand quartier, c'est un grand marché d'ailleurs. Marché couvert, puisque les Thaïlandais urbains sont des papillons de nuit qui ne dorment pas, en fait, et on les voit arriver en pleine nuit en pyjama pour acheter une cuisse de poulet.
Sérieusement?
Ah oui, tout à fait. Les enfants aussi, ils dorment très peu. C'est peut-être pour ça qu'il y a un problème dans l'éducation, c'est qu'ils ont du mal à se concentrer puisqu'ils dorment jamais. Donc, dans ce genre de marché, vous voyez 24h sur 24 tout à vendre. Vous avez besoin d'un téléphone portable, ou une fois d'une cuisse de poulet ou d'un curry, vous le trouverez. Vous savez que ça existe, vous savez que c'est là immuablement 7 jours sur 7. Et c'est un cosmorama, c'est une avalanche de sons, de bruissements, de couleurs, de vie, c'est assez
Alors,
passionnant.
Vous le disiez, les commerçants dorment, vivent sur place dans le marché, mais il n'y a pas que les commerçants qui finalement sortent assez peu de leur quartier, du fait que la ville est gigantesque, étendue, 19 millions d'habitants.
Je ne sors pas de mon quartier, comme beaucoup de Bangkokois. Finalement, on vit dans notre communauté.
Quand vous travaillez,
je prends les avions, Mais sinon, non, on sort pas tellement. On est assez casanier, parce que sortir de son quartier, ça veut dire embouteillage, ça veut dire... D'ailleurs, quand vous prenez par exemple une moto-taxi qui sont partout à vous attendre, en général, elles connaissent pas les rues. Les moto-taxis ne connaissent pas les rues qui sortent de votre quartier. Donc on vit beaucoup dans la communauté, parce que c'est l'étranger, c'est ailleurs, c'est à 1 km, mais c'est compliqué. On peut mettre 2 heures pour aller dans la rue d'après. Donc autant rester finalement dans son quartier.
Ça veut dire du coup que les familles thaïes restent regroupées dans un même quartier
absolument,
également.
Absolument.
On va se marier dans son quartier, on va pas épouser une fille dans un autre quartier à l'autre bout de la ville.
Il faut évidemment se méfier des généralités, c'est un pays moderne, mais dans le principe, bien sûr, d'autant qu'on a gardé la tradition de vivre en famille de génération en génération sous le même toit, d'abord pour des raisons économiques, mais en général parce qu'il n'y a pas le choix, puis c'est comme ça, les parents s'occupent des enfants, ensuite les enfants s'occupent des parents vieillissants, mais c'est vrai qu'en général, plusieurs familles, des frères et sœurs, des fratries avec leurs femmes et leurs enfants cohabitent, donc tout le monde va au marché au même endroit, tout le monde grandit, vieillit et meurt parfois dans ces mêmes quartiers.
Bangkok, une ville sous tension, vous nous le disiez, Cyril Payen, depuis le début de l'émission. D'ailleurs, une tension qui n'est pas forcément palpable, qui est peu lisible à l'œil nu pour l'étranger. Le bouddhisme n'est pas anodin dans cette histoire-là. Les prières à l'Erawan, oui. Cyril Payen. De quoi s'agit-il ?
Alors, c'est très très connu à Bangkok. L'Erawan, c'est un endroit très syncrétique qui regroupe le bouddhisme, l'hindouisme. Et c'est un endroit assez intéressant parce qu'au-delà du cliché, c'est très 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 connu. Vous avez toutes les formes de bouddhisme qui viennent ici se recueillir. C'est très 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 ancré dans la superstition. Vous avez par exemple un chauffeur de taxi qui vous fait passer devant. Il va lâcher le volant pour se prosterner devant l'Erawan, devant cette statue d'or. Donc c'est un endroit important. Il faut savoir que c'est aussi un endroit qui a été avant une place où il y avait des exécutions capitales. Alors pourquoi est-ce qu'on a été mettre cette statue très importante là, je ne sais pas. C'est aussi à l'endroit dit le mythe, j'ai jamais pu vérifier personnellement, mais qui serait favorable pour la procréation. Donc beaucoup de femmes nues, dit-on, viennent danser le matin très tôt, à l'aube, devant les Rawan pour favoriser la procréation. Donc moi j'ai pas vu, mais c'est un endroit très important et qui montre aussi la superstition, hein, puisqu'il y a quand même une dérive, je pense, de la religion en Thaïlande, à Bangkok. Mais le sacré est quand même partout, dans le quotidien, dans chaque minute des gens.
Plus ici. Encore aujourd'hui, est-ce que c'est corrélé à cette chape de plomb qui s'est abattue aussi sur le pays, sur une parole bâillonnée?
Probablement, c'est un des vases communicants de cette inquiétude sur l'avenir de la dynastie royale, hein, d'un pays qui a plusieurs générations vécu avec le même roi, dont on sait la santé vacillante. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes. Et c'est vrai que la religion la superstition essayait de trouver des solutions pour l'avenir, au moins spirituellement. Peut-être qu'on peut y voir quelque chose comme ça, oui, bien sûr.
Comment ça cohabite avec cette ville également en déliquescence que vous nous décrivez depuis le début?
C'est l'alchimie thaïlandaise. C'est l'alchimie
de Bangkok.
Parce
qu'il y a une police des moines, hein, par exemple.
Aussi, oui, absolument.
Et les gens, le plan des mœurs?
Absolument. Qui chassent, en fait, sont les sortes d'incorruptibles, de FBI des moines qui, sur dénonciation, vont traquer les faux moines. Parce que ça aussi, c'est le cliché. Vous voyez, vous allez en Thaïlande, vous voyez des moines à Bangkok qui font l'aumône, mais il y a beaucoup d'escrocs, de faux moines. Et donc, ça a été un tel point. Et pour sauver un peu le clergé bouddhique, la Sangha, on a créé cette unité de 200 moines triés sur le volet qui sont menés par un ancien général d'armée qui est maintenant un moine supérieur. Et il traque les faux moines, tous les abus. Ça montre aussi qu'il y a une dérive, hein, de la religion.
Et une politisation aussi du clergé bouddhique.
Absolument. Et je crois qu'il y a plusieurs écoles d'ailleurs dans le clergé bouddhique. Certaines sont assez dénoncées pour être très éloigné des grands préceptes, hein, bouddhisme. Je veux dire par là, par exemple, aucun matérialisme. Bon, il faut voir la richesse qui est entre les mains de certains membres du clergé. Donc cela est aussi dénoncé par certains partis politiques, par certains Thaïlandais. Mais il y a une véritable dérive spirituelle à cause de l'urbanisation. Tout ça se transforme un peu en superstition. Enfin, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, je le vois. Mais c'est dénoncé par des grands experts du bouddhisme. Donc il y a aussi un peu une crise morale, hein, qui s'ajoute à tout ça. Donc les gens viennent prier à cet endroit, mais c'est pour avoir peut-être un business qui va marcher, peut-être pour avoir des choses concrètes, et on est très très loin des préceptes du bouddhisme.
Et alors finalement, depuis le début, vous nous décrivez cette ville sous tension, à Bangkok, et en même temps qui baigne dans ce sabai-sabai, qui veut dire littéralement
tout va bien.
Le sourire aussi, et cette tension, est-ce qu'on pourrait arriver jusqu'à l'implosion sociale?
Il y a plusieurs avis. Moi, je suis pas du tout optimiste pour l'avenir de cette ville et de ce pays, parce que il y a une telle chape de plomb c'est une cocotte minute, hein. Il va falloir que ça respire d'une manière ou d'une autre. Et il y a un tel antagonisme social entre les milieux urbains et des campagnes qu'il va bien falloir qu'il y ait une solution. Et que tout ça a été cimenté par le bouddhisme et puis par l'institution royale. Et quand tout est en train de se fragiliser pour des raisons diverses, il est vrai que la Thaïlande va certainement rentrer dans une nouvelle ère. Et il y a aussi, j'ajoute à cela, une nouvelle forme de contestation qui n'est pas politisée, des étudiants, des gens assez mondialisés, intelligents, éduqués, et qui, pour, je pense, les bonnes raisons, posent les bonnes questions à une société qui ne s'est pas souvent posé des questions à cause du sabai-sabai, justement. Et que tout cela fait que les Thaïlandais sont assez dos à dos actuellement et face à un avenir qui va ne forcément accoucher quelque chose d'assez violent, probablement, nécessaire.
On n'a pas encore parlé de la nuit à Bangkok, mais évidemment, certains n'attendent que cela depuis le début de l'émission. On a gardé peut-être le meilleur pour la fin, ça sera juste après. Un titre que vous avez choisi, curieusement, La souris déglinguée.
Combat de boxe, demoiselle en stock. À cette accoutumance, y a pas de désintox. Ta meilleure amie travaille sur Soura Wong. Au café de Paris, dans sa version pas de pong. Les musicaux s'aveuglent, installent leur matos. Sur un bord de trottoir, du matin jusqu'au soir. Une seule chanson à leur répertoire. Une seule vibration. B-A-N-G-K-O-K. Bangkok. Bang, 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 bang. à Bangkok. Elles sont toutes à leur poste dans leur zone de combat. Elles mettent en évidence leurs plus beaux appâts. Les filles de Siam ne manquent pas de charme. Faut dire qu'elles dînent la plus belle des cames. C'est la cité des anges, alors y'a rien d'étrange. Ça peut être qu'un plan sûr ou encore l'aventure. Là-bas au fond du sol, saisis ta chance, cow-boy. Car la nuit passe vite, sur l'avenue se coume vite.
B-A-M-G-K-O-K Bangkok. Bangkok.
Demoiselle en stock, à cette accoutumance y'a pas de désintox. Ta meilleure amie travaille sur Surawong, au café de Paris dans sa version patpong. Les musicaux s'aveuglent, installent leur matos sur un bord de trottoir du matin jusqu'au soir. Une seule chanson à leur répertoire, une seule vibration.
Cyril Payen, vivre dans une ville sous tension à Bangkok, pourquoi donc la souris déglinguée? C'est vous qui signez le programme musical.
Ben, merci, parce que c'est un groupe qui depuis de nombreuses années chante la zone et l'Asie. C'est un groupe assez attachant qui connaît très très bien, notamment avec Thaï Luc, le chanteur Bangkok. Ils ont signé beaucoup de chansons à Bangkok, sur Bangkok, et ça fait un peu partie de ce voyage, je trouve, de les avoir, puisque pour les habitués de l'Asie, et notamment de la Thaïlande, la souris déglinguée, c'est incontournable.
Ça veut dire que là, on va s'orienter dans les dernières minutes de l'émission vers les massages thaï, les boîtes de nuit,
les mercenaires louches, dans les bars, louches, oui, bien sûr, tout ce qui est ça
parce
aussi.
Parce que, oui, ça n'est pas un cliché.
Ah non, c'est pas un cliché, c'est une grande partie de l'économie, ça fait partie.
On sait combien ça rapporte d'ailleurs à l'économie de la ville.
Difficile à dire puisque tout le monde touche. Le pays ne tiendrait pas sans cette économie parallèle. Alors ça a été réformé évidemment. On vit sous dictature, donc tout cela. Et évidemment, il faut faire attention aux généralités, aux clichés. Ce n'est plus la ville que ça a été sur ce plan, mais il y a des bordels à chaque coin de rue. Évidemment, il y a des quartiers rouges qui fonctionnent énormément. Et puis il y a une grande partie du tourisme qui vient pour ça, évidemment.
Ça continue, mais en même temps, la Thaïlande a beaucoup fait, Bangkok notamment. Puis les stations balnéaires, mais pour limiter le commerce du sexe avec des mineurs, par exemple.
Bien sûr, mais ça a commencé avec le travail contre l'épidémie de sida, où la Thaïlande a été absolument formidable dans les années 80, puisqu'on a réussi à inverser une courbe extrêmement dangereuse, et ça a été un pays modèle pour ça, puisque on n'a pas forcément fermé les bordels, mais on a appris les moyens de se protéger. Donc là, c'est encore une fois un business qui marche très très bien, où on connaît les limites aussi de ce business, donc tout est fait assez professionnellement, si je puis dire, pour que tout le monde soit content. Mais il y a tellement d'intérêts en jeu que ça ne changera pas, quel que soit le pouvoir en place, et que c'est encore une des parties importantes de cette assez visible de cet iceberg, sachant que la prostitution n'est pas l'apanage des Occidentaux. Hein, c'est un des monstres qui a été créé depuis 40 ans, mais la prostitution a toujours fait partie de la vie en Asie du Sud-Est. Mais il ne faut pas la limiter à ça, évidemment, et surtout pas à Bangkok.
Cyril Payen, la classe moyenne occupe une place importante à Bangkok. Il y a une vraie classe moyenne.
Oui, hein. Absolument. Oui.
Que fait-on le week-end pour la classe moyenne et voir la classe populaire, enfin la classe qui a de quoi payer l'école à ses enfants, etc.
Alors longtemps, il n'y avait pas grand-chose à faire, puisque sur le plan culturel, Bangkok est parfois un vrai désert, mais ça change. Mais c'est vrai que pendant longtemps, les gens qui avaient les moyens au moins de s'arrêter, de travailler, c'est-à-dire il y a quand beaucoup de millions de Thaïlandais qui travaillent 7 jours sur 7, qui ne se plaignent pas, quand on avait une pause du week-end, on va faire du lèche-vitrine sans acheter, mais on va dans les grands centres commerciaux climatisés, parce que moi, c'est gratuit, il fait frais, on regarde des belles choses, ça fait rêver, parfois on les achète, donc ça c'était l'émergence de la classe moyenne dans les années 90. Aujourd'hui, ils se font un peu plus plaisir, puisque vous avez raison, il y a vraiment un ancrage hein, de la classe moyenne urbaine, donc ils commencent à sortir un peu de Bangkok, aller pas au bord de la mer, parce que c'est un peu loin, on est obligé de faire 2 heures de voiture pour trouver une plage, et puis c'est pas toujours formidable.
Mais en kilomètres, qui est tout près à la mer.
Ah mais c'est tout près, c'est une ville portuaire, Bangkok, mais moi j'ai jamais vu la mer à Bangkok, alors que j'habite près du fleuve. Je sais qu'il y a un fleuve qui mène à la mer, parce que je l'ai vu sur une carte, mais j'ai chercher une plage, il n'y en a pas. Ce sont des marais, et tout ça, c'est encore une fois une ville qui paye cette urbanisation anarchique. Donc, les classes moyennes commencent à se balader un peu dans le pays, et puis, comme l'euro, en plus, est beaucoup descendu, ils
partent voyager. Vous dites la ville culturelle, ça y est, ça change, c'est en train de changer, ça veut dire quoi?
Mais écoutez, il commence à y avoir des concerts, il commence à y avoir, il y a des musées, ça commence, c'est encore un peu, c'est pas essentiel encore, la vie culturelle à Bangkok. C'est pas à Bangkok qu'il faut aller si on veut voir des musées. Mais ça commence. Il y a une volonté de montrer un peu l'artisanat thaïlandais. Ça regorge de plein de choses intéressantes. Il y a de plus en plus d'échanges culturels, de concerts. Donc on est sur la bonne voie.
Les cadres qui travaillent dans des bureaux, qui veulent se reposer le week-end, c'est essentiellement en famille. Les activités vont rester dans la ville.
Oui, en général, oui. On ne sort de la ville que pour les grandes occasions, sur le nouvel an bouddhique, où là tout s'arrête. Mais en général, on reste dans la ville, bien sûr. Oui.
Cyril Payen, quand vous êtes loin de cette ville que vous avez dénommée la ville de l'enfer, hein, quelque part, Bangkok.
Je l'assume.
Qu'est-ce qui vous manque de la ville sous tension quand vous êtes loin d'elle depuis quelques jours? En l'occurrence, là, vous venez d'arriver.
Mais... Ouais, difficile à dire. Mais je crois que cette énergie, cette vibration permanente, quelque chose auquel je suis maintenant extrêmement attaché. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quand j'ouvre les yeux, il fait jour. Et je sais que tout est possible.
Et qu'est-ce que vous retrouvez au contraire avec délectation ailleurs, à Paris?
Eh bien le contraire, le calme.
Si ce n'est que vous vous mettez à courir devant les voitures, parce que vous avez gardé ce réflexe de la peur.
Ah oui, je suis terrifié quand je traverse une rue. Pour venir ici, j'étais terrifié. Et d'ailleurs, tout est à l'envers, puisqu'on ne roule pas du même côté. Il faut s'acclimater. Quand on est trop dans le tropisme, il faut se réacclimater ensuite, bien sûr.
Merci Cyril Payen de nous avoir fait partager un peu de ces quelques vies à Bangkok, la ville sous tension. À lire aussi votre livre Bangkok la nuit aux éditions Philippe Piquier, et bien sûr nos émissions Vivre en ville sont à écouter, à réécouter, à partager en podcast d'ailleurs avec les voisins et les voisines sur le site rfi.fr à la page des 7 milliards de voisins. Demain nous serons toujours en Asie mais beaucoup plus au nord. Demain, vivre dans une ville énergivore, Hong Kong en Chine.